Salut à tous, c'est RetroTaku, votre JT du Rétro Gaming. Alors un très beau programme en ce mois de décembre. Oh oh oh, c'est Noël. On va retrouver aujourd'hui le test avec Days for Christmas, un jeu dans lequel on joue le Père Noël. Le dossier sera consacré à Luigi, un personnage important de l'univers vidéoludique. On parlera aussi d'une console cette semaine, ça sera la Super NES. Et enfin, dans le RetroDico, on découvrira le mot multitap, on est parti, mais vous le savez bien, on commence tout de suite avec les news. La Xbox One et la PS4 sont depuis peu sur les étalages des supermarchés. L'occasion pour Pixel Love de sortir un ouvrage sur la genèse de la Xbox première du nom et l'arrivée en grande pompe de Microsoft dans l'univers des consoles de salon. C'est donc toute la génération des 128 bits hein, qui se retrouve officiellement dans le passé et offre aux dieux du rétro gaming des consoles comme la Dreamcast, la GameCube, la PS2 ou la Xbox. Allez, on continue nous tout de suite avec les news en images.
Les possesseurs d'Atari ST ou d'Amiga se rappellent sûrement de la série Speedball. Ce jeu de sport futuriste mélange football et sport de combat. Tous les coups sont permis pour mettre le ballon dans les buts adverses. Développé dans les années 90 par les Bitmap Brothers, Speedball 2 revient donc en version HD pour décembre 2013 sur PC.
Continue est un groupe de trois garçons aux États-Unis testant sur YouTube des jeux plus ou moins récents. Dernièrement, le Continue, Philly Under Fire, met en scène les trois garçons dans un jeu fortement inspiré du mythique Contra. Cet excellent jeu est jouable gratuitement sur votre navigateur web.
F-Zero est une série de jeux de course futuristes sortis sur différentes consoles Nintendo. Dernièrement, des développeurs amateurs ont refait à neuf la version Nintendo 64 en rajoutant de nouveaux niveaux inspirés de la version Game Boy Advance. Cette version appelée F-Zero Climax, comme le jeu Game Advance, est même jouable sur la Nintendo 64 d'origine.
Megaman, le petit robot de Capcom, combat toujours le Dr. Willy. Des amateurs et accros au robot bleu de Capcom développent actuellement Megaman 2.5D. Le jeu s'inspire des versions NES et permet en plus de jouer à deux joueurs. La version bêta est d'ailleurs téléchargeable gratuitement. Les développeurs interrogent d'ailleurs les joueurs pour savoir quels méchants ils aimeraient avoir dans les prochains niveaux en cours de réalisation.
Dr. Lacave est connu pour son travail sur No Life avec l'émission Hidden Palace, mais aussi pour ses écritures dans le regretté IG Magazine. Son dernier projet est un magazine papier proposant des articles et tests sur un mois spécifique. Ce magazine s'appelle Rétro vers le futur magazine et le premier numéro traitera des sorties et actus de janvier 1993 avec des jeux comme Super Mario Kart, Super Fantasy Zone, Super à l'Est, PC Kid 3, World of Illusion entre autres. Beau programme.
Le développeur amateur Deathlink rend hommage à l'un des plus grands titres de Konami dans l'univers des vampires, Castlevania Symphony of the Night. En effet, son jeu Castlevania Symphony of the Bat reprend l'univers de Castlevania avec son château et son bestiaire si particulier en y rajoutant une ambiance pixelisée. Castlevania est jouable gratuitement sur votre navigateur web.
Ho ho ho! Dans le test du mois, vous allez pouvoir jouer le Père Noël! C'est dans Days for Christmas!
Et vous allez voir, c'est pas facile, hein, la vie de Père Noël. C'est bizarre quand même. Hein. Allez, on y va, c'est le test.
Tiens, voilà un jeu vidéo pas très connu que Damien DS m'a proposé de chroniquer en l'occasion des fêtes de fin d'année. Disponible uniquement en import à l'époque, puisque cette cartouche était sortie en Australie exclusivement. Avant d'aller plus loin, il est nécessaire d'expliquer ce titre à double sens. En effet, Days, D-A-Z-E, signifie problème, au même titre que Days, D-A-Y-S, qui veut dire jour. On peut alors traduire par « le jour avant Noël » et « problème avant Noël ». Édité par Sunsoft en 1994 pour la Mega Drive et la Super Nintendo, Days Before Christmas vous propose d'incarner le Père Noël en personne. Le jeu se découpe logiquement en 24 niveaux, correspondant aux 24 jours avant Noël, et chaque journée est représentée par une case dans le calendrier de l'Avent. Les développeurs de Funcom ont vraiment pensé à tout. Les problèmes vont venir de Monsieur Weaver, Monsieur Météo, qui a méchamment enlevé les lutins, emprisonné les rennes et transformé les jouets en petits diables. L'action se déroule en deux parties. La première est une séquence de plateforme où l'objectif est de récupérer un maximum de cadeaux disséminés dans des endroits insolites. La deuxième partie s'apparente à un petit shooter. Il faudra lancer des jouets par milliers, sans oublier les petits souliers, directement dans les cheminées. L'aspect visuel est tout à fait réussi. Les graphismes sont parfaitement dans le ton de Noël avec une palette de couleurs respectant la tradition. À la limite, vous pouvez presque vous en servir comme élément décoratif chez vous, près du sapin, en laissant tourner la démo du jeu. Parlons aussi des musiques qui reprennent bien évidemment un large éventail du folklore de Noël, indispensable pour se mettre dans l'ambiance. Si vous voulez essayer de vous mettre dans la peau du Père Noël par l'intermédiaire de cette simulation, vous vous rendrez vite compte que ce n'est pas un métier de tout repos.
Allez, dans le dossier du mois, et pour la première fois, on s'intéresse à un personnage important de l'univers du rétro gaming et du gaming en général, puisqu'il est encore là. Le voilà. Non, c'est pas celui en rouge, c'est celui en vert derrière. Bah ouais, parce qu'on l'aime bien, nous, notre ami Luigi. Et Luigi, c'est pas que le pote de Mario, c'est aussi un personnage à part entière, on le découvre en long, en large et en travers dans le dossier. Luigi est aujourd'hui un des personnages incontournables de l'univers Nintendo. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Apparu pour la première fois en 1983 dans Mario Bros. Sur arcade, il n'était à l'époque qu'un personnage d'une autre couleur pour incarner le deuxième joueur. La légende raconte que Nintendo a même dû piocher dans la palette de couleurs déjà en mémoire dans le jeu et a réutilisé les couleurs des carapaces de tortue pour différencier ce deuxième joueur et ainsi lui donner naissance. Dans Super Mario Bros. Sur NES, les couleurs de Luigi sont inversées par rapport à son frère Mario. Sa moustache est verte alors que sa salopette est blanche. Pour Super Mario Bros. 2, Luigi se démarque de Mario par sa taille plus grande et sa capacité à sauter beaucoup plus haut. Quasiment dans tous les jeux de la franchise, le frère maladroit du plus célèbre des plombiers n'a servi que de faire-valoir et de second rôle jusqu'à son apparition au premier plan en 1993 dans le jeu Mario is Missing, jeu éducatif de géographie sur NES, Super NES et encore plus surprenant sur PC. Il obtient enfin ses coups propres et un début de personnalité dans des jeux comme Super Smash Bros, mais malheureusement, il restera pendant quelques années dans l'ombre de Mario à continuer de jouer le parfait acolyte et à participer uniquement aux jeux multijoueurs. Il sera même complètement oublié dans certains titres comme Super Mario 64 ou Super Mario Sunshine. Il fera quand même connaissance avec son double maléfique dans Mario Power Tennis. Mario a son Wario, Luigi a son Waluigi. L'emblème sur sa casquette est évidemment un L à l'envers et son allure caricature drôlement la maladresse du plombier vert. Son plus gros succès reste à ce jour Luigi's Mansion sur GameCube. Il se paye le luxe d'être LE jeu associé à la sortie de la console. Pour une fois, c'est lui qui est au centre du jeu. Exit les rôles secondaires, il est le héros et doit sauver Mario. Le petit frère du plombier vient de souffler ses 30 bougies. Pour fêter l'événement, Nintendo a déclaré 2013 comme étant l'année de Luigi et en a profité pour sortir la suite de Luigi's Mansion sur 3DS ainsi qu'une version spéciale de New Super Mario Bros. U appelée New Super Luigi U. De quoi prendre sa revanche sur des années passées dans l'ombre de Mario.
Oh, Noël 1992, le petit Jean-Christophe reçoit une Super Nintendo sous le sapin. Non, c'est pas vrai, j'avais une Sega. Et justement, puisqu'on parle de Sega, le mois dernier c'était la Mega Drive, on vous l'avait promis, ce mois-ci dans la rubrique console, c'est la Super Nintendo qui est à l'honneur. On y va.
La Super Nintendo ou Super Famicom au Japon est une console de salon 16 bits commercialisée par Nintendo en Europe en 1992. Elle vient directement concurrencer la Sega Mega Drive sortie 2 ans plus tôt, qui commence alors à prendre des parts de marché face à la Nintendo en perte de vitesse. Le constructeur nippon a produit une version américaine physiquement différente des versions japonaises et européennes, avec un design et un format de cartouche carré. Nous avons heureusement eu droit à une version plus soft. La Mega Drive jouait aux Transformers avec sa plâtrée d'accessoires, la Super Nintendo n'est pas en reste et proposera en plus de ses manettes 6 boutons, un light gun sous la forme d'un bazooka, le Super Game Boy permettant de lire des jeux Game Boy, un stick arcade, une souris pour jouer à Mario Paint et même un multitap pour jouer à plus de 4. Le port d'extension pouvait accueillir le Satellaview, une unité de téléchargement de jeux uniquement accessible au Japon qui a fait un flop. Un autre accessoire que l'on aurait dû y connecter était un lecteur de CD-ROM répondant au doux nom de PlayStation, projet malheureusement annulé suite à un différend entre Sony et Nintendo. Les atouts de cette console résidaient dans une puce sonore de qualité et dans son célèbre mode 7 simulant des effets de zoom, rotation, scrolling sans perte de performance. Le mode 7 était utilisé à outrance dans des jeux comme Mario Kart, F-Zero ou encore Pilot Wings. Les cartouches pouvaient embarquer des processeurs supplémentaires, comme la puce Super FX permettant des rendus 3D, comme dans le Shoot'em Up Star Fox. Voilà de quoi concurrencer encore une fois la Mega Drive qui avait sorti son Virtua Racing en 3D. Les jeux best-sellers sont évidemment issus de l'univers de Nintendo, avec par exemple Super Mario World renouvelant le gameplay du plombier, ou encore Super Mario Kart qui a lancé un genre unique et Zelda A Link to the Past. Il ne faut pas non plus oublier des RPG de légende comme la série Final Fantasy, Secret of Mana ou Chrono Trigger, et des jeux de baston mythiques comme Street Fighter 2. À l'arrivée des concurrents 32 bits, c'est sur des titres comme Donkey Kong Country et Yoshi Island que Nintendo pourra compter renouveler son catalogue. La Super Nintendo est sortie 2 ans après la Mega Drive qui disposait déjà d'un catalogue bien fourni. Elle réussira tout de même à s'imposer grâce à la solidité de son catalogue et à ses performances audio et vidéo. Elle arrivera même à rester populaire face aux consoles 32 bits.
Excusez-moi parce que je suis en train de m'organiser, on va jouer avec des amis à Bomberman à 10, mais du coup on a besoin d'un multitap. Et le multitap, c'est de ça dont on parle dans le Rétro Dico ce mois-ci. J'y vais, hein, je vais m'organiser, on se retrouve tout de suite.
Le multitap est un accessoire permettant d'augmenter le nombre de manettes de jeu pouvant être connectées à une console. En effet, sur les systèmes 8, 16 et 32 bits, nous n'avions généralement que 2 ports manettes, voire un seul sur la NEC PC Engine. Une fois le multitap branché à la place d'un contrôleur, il est possible de connecter plus de manettes et de participer par exemple à un jeu de foot à 4 sur la même télé. On retrouve généralement des jeux de sport, de course, de baston et de tir dans la catégorie des 4 joueurs et plus. Sur certaines consoles, nous pouvons brancher un multitap sur chaque port manette, ce qui permet de jouer jusqu'à 8 sur la PlayStation 2 ou de jouer sur le mythique Bomberman jusqu'à 10 sur Saturn. L'arrivée de la Nintendo 64 avec ses 4 ports manettes a rendu obsolète le multitap. Chaque constructeur, hormis Sony, suit alors le mouvement sur les 128 bits en proposant également 4 ports manettes.
Et voilà, c'est déjà la fin de votre JT du Retro Gaming. C'était le dernier de l'année 2013. On se retrouve en 2014 pour le numéro 13. Ça porte chance, il paraît. En attendant, vous pouvez bien sûr nous envoyer un petit mail, jt@retrotaku.com, suivre l'ensemble de l'actualité Retro Gaming, www.retrotaku.com, ou bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, avec le hashtag RetroTaku. Moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Ciao !